This is the Humans Link Audio Experience. The greatest.
Bonjour à toutes et à tous, ici Valentin French de humanslink.com et je vous souhaite la bienvenue sur une nouvelle pause café. Comme vous le savez, on se retrouve tous les jours de la semaine à 11h. Aujourd'hui, c'est vendredi et nous voulons favoriser une fois de plus le lien humain. Comme vous le savez maintenant, nous sommes convaincus que l'adaptabilité et la résilience sont les plus grandes forces de l'humanité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, avec la pause café, on peut mettre en avant l'entraide et la solidarité. Et pour ce faire, on va avoir un invité d'exception, un humain que j'aime beaucoup. Alors, j'ai mes notes ici. C'est un artiste peintre. Il s'interroge dans ses peintures et ses dessins. Et aussi, avec ses écrits, il est aussi musicien, vous allez voir. Et il est membre du Centre d'études et de recherche en esthétique et en art plastique. Merci d'accueillir Alain Joséphine. Bonjour Alain, comment vas-tu?
Bonjour, je vais très bien. Merci pour ton invitation.
Ça me fait super plaisir. On s'était vu lors de la Week, un événement organisé par Humans Link en novembre dernier. Et tu avais fait une conférence incroyable, à deux reprises d'ailleurs dans la semaine. Et on avait eu l'occasion, toi et moi, de partager plusieurs moments où on avait discuté sur ta philosophie, etc. Donc ça me fait super plaisir de te revoir encore aujourd'hui. On va pouvoir parler, partager en ce temps de confinement.
Oui.
D'ailleurs, à tous ceux qui nous suivent, si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un like, à partager autour de vous, faire connaître cette pause café. Et si aussi vous êtes sur YouTube, pareil, vous pouvez nous lâcher un petit pouce bleu pour aider sur l'algorithme YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochains épisodes qui reviennent. Je vous rappelle, on revient tous les jours de la semaine à 11h, donc du lundi au vendredi. Et je profite pour saluer Isabelle d'Izazu sur Facebook qui revient régulièrement nous suivre. Ça fait plaisir de te voir. Et Yolande, évidemment, qui est fidèle au Pause Café. Alain, comment tu vis, toi, cette période de confinement? Est-ce que je sais que ça, c'est presque une nouvelle réalité maintenant. Ça fait plus d'un mois. Comment tu le vis ce moment un peu
Ben, je dirais que les artistes ont un peu l'habitude du temps long. parce que le temps long, c'est ce temps dont on a besoin pour créer, pour entrer en création, je veux dire. Et c'est vrai que le temps long est un temps qui ne nous panique pas. C'est un temps avec lequel on est accommodé. Et donc, ce temps extrêmement long qui est celui du confinement, eh bien, nous permet de, enfin, en tout cas, à mon niveau, me permet d'aborder les choses, mais avec plus cette possibilité d'aller jusqu'au bout. Voilà. Des fois, quand il faut se lever et puis on a des choses à faire dans la vie normale, là, je peux plus aller en profondeur dans la réflexion et dans les créations. C'est surtout ça, je pense.
Donc, quelque part, c'est une opportunité pour toi, ce que j'entends. Enfin, ça change pas particulièrement. C'est une opportunité d'avoir le temps et de prendre le temps, si j'entends bien.
Oui, par exemple, le temps de lire. C'est vrai que la lecture, c'est on n'a pas trop le temps de lire, mais je lis et puis je prends le temps de faire les choses avec le temps qu'il faut, quoi. Et ça change tout parce que en fait, on remarque que ce temps-là, ben, c'est simplement le temps normal de la vie, quoi. C'est le temps de la nature, le temps qu'on plante, le temps qu'il faut pour que les racines prennent, le temps qu'il faut pour que les feuilles. C'est ce temps naturel, je pense, auquel nous sommes reconnectés de force, on va dire, dans cette expérience du confinement.
Ouais, je sais que tu aimes bien l'expression de donner du temps au temps pour que les choses se fassent.
Et oui, dans la démarche de Humans Link, je pense que oui, donner du temps au temps, c'est redonner aussi le temps de l'humain. Et je crois que nous ne sommes pas dissociés de la nature. La nature est en nous, nous faisons partie de cette espèce de grand tout cosmique, en fait. Et il y a un temps, nous avons créé un temps artificiel, en fait, hein, parce que les choses vont vite. Mais ce temps-là est en décalage, finalement, avec mais voilà, le temps de la respiration, le temps d'aller marcher, le temps de se ressourcer, tout ça, ce sont des temps qui sont synchrones avec le temps naturel. Et je crois que cette pause qu'on a, cette pause zoom enfoncée, eh bien, nous réinscrit dans ce temps universel qui est le temps naturel, en fait, et qui est le temps qui sied à l'homme, c'est qu'on l'a oublié.
C'est vrai. Et toi, Alain, je sais que tu as plusieurs casquettes, parce que tu es un artiste avec un grand A. Est-ce que tu peux, pour ceux qui, les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore, te présenter brièvement sur tes différentes occupations? Qui es-tu, Alain?
Non, moi, je sais pas. Non, tout ce que je peux dire, c'est que je suis un homme éveillé, voilà. Mais éveillé dans le sens où je fais attention à tout ce qui se passe autour de moi. Et j'essaie de mettre au service de cette acuité sur le monde, sur les choses, eh bien, ma sensibilité et mon intelligence. Et en fait, et donc à partir de cette sensibilité particulière, et c'est ce que j'essaie de déceler chez mes élèves aussi, ce que j'appelle l'intelligence sensible, en fait. C'est de mettre au service de sa sensibilité, son intelligence, sa façon de voir les choses, et qu'elle ne soit pas coupée de notre sentiment des choses. Voilà. Et je pense que quand on allie les deux, et c'est ce que je fais en poésie, en peinture, en musique, c'est d'essayer de comprendre les choses, mais sans mettre à part notre sensibilité. Parce que notre sensibilité, c'est aussi une façon d'être relié au monde. On peut penser les choses, mais on peut les ressentir. Et les deux, eh bien, se complètent et s'enrichissent. C'est comme ça que je travaille, voilà, c'est ça. Je réfléchis sur les choses, mais à partir de stimuli que me donne, eh bien, voilà, l'œil, le toucher, l'odorat, la sensation, voilà, la façon d'être dans le monde avec mon corps, quoi. Mm-hmm. Ça nous donne des informations aussi.
Je sais que du coup cette sensibilité-là et ce temps que tu prends pour réfléchir, après tu as une manière très particulière qui est propre à toi de l'exprimer à travers des mots, mais aussi à travers des sons et mais aussi des peintures. Je vais profiter rapidement pour peut-être afficher ton feed Instagram. Bon, pour ceux qui nous écoutent juste avec l'audio, malheureusement, vous n'aurez pas l'image, mais voilà.
Oui, en ce moment, ce sont des petits dessins que je réalise parce que comme mon atelier de peinture n'est pas chez moi, il est à distance, donc je ne peux pas y aller pour l'instant. Et donc, je me concentre sur des dessins à l'encre de Chine, à l'aquarelle, au crayon couleur, au pastel. Et tous ces dessins, en fait, sont des espèces de petites recherches, toujours sur l'idée de l'évocation de cette nature, de l'espace dans lequel elle nous fait vivre. Dans les peintures, enfin, quand je suis dans l'atelier, c'est plutôt l'action, la confrontation au grand format, parce que je pense que nous sommes dans un petit pays, mais en fait, c'est un très grand pays. Moi, je le prends comme un très, très grand pays, un pays vaste. Parce que nous avons de grands hommes, nous avons des gens qui font des choses formidables, qui rayonnent bien au-delà des frontières de l'île. Et donc, pour moi, nos îles sont le grand pays. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin aussi de faire de grands formats. Et puis, parce que aussi, cette nature qui est là tout autour de nous, elle est là autour de nous, nous vivons dedans, et je ramène tout ça à cette dimension de l'homme qui ressent les choses, qui ressent l'espace, qui ressent les couleurs. Et bien, c'est pour ça que j'ai envie de plonger le spectateur aussi dans ses peintures, comme s'il était dans la nature réelle.
Effectivement, je vois que On voit ici sur l'image qui est ici là, les peintures sont de très grand format. C'est juste pour qu'on
Oui,
puisse
oui.
avoir une idée, c'est ici là, par exemple, sur ce qu'on voit, c'est haut de combien?
Ah ben c'est haut, enfin ça fait 2,10 m de haut. Et si celle du fond, elle fait un peu plus de, je sais pas, 1,75 m, près de 3 m de large. Et puis celle de droite, là, un peu plus de 2 m. Voilà. Ouais. Non, mais c'est important parce que le travail, l'action, le fait d'être en action, ça me relie, c'est ce dont on a parlé une fois, ça me relie à la terre, en fait. Ça me relie au travail de la terre, au fait que, il faille se courber, il faille se pencher pour travailler la terre, et puis au fait aussi que aux Antilles, en fait, dans les contrées où la nature est très, très présente, eh bien, il faut cette dépense physique pour créer son espace de vie. Pour couper, pour élaguer, pour créer le vide et pour contre la lumière, en fait. Et pour un peu rebondir sur ce dont je parlais avec Jean-Jacques, mais oui, il faut ménager des brèches. Il faut ménager des brèches pour contre la lumière et il faut maintenir la brèche, en fait. Donc, il faut travailler pour que la brèche soit toujours ouverte et que cette lumière puisse entrer. Donc,
Alors,
oui.
c'est ça que j'allais dire, mais pa parlons de terre, parlons des hommes, de l'homme avec un grand H. Et tu disais, tu me disais avant qu'on soit en live, pour toi, le confinement, c'est en un mot, c'est la lumière. Et là, tout de suite, tu parles de brèches, d'entretenir des brèches que moi, j'entends des opportunités pour que la lumière puisse passer. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
Non, ça veut dire que simplement, je sais que c'est pas, je parle en tant qu'artiste, quoi, enfin, de ma position. Je ne sais pas si c'est une position qui est complètement applicable dans tous les domaines, mais je sais que avec 25 ans, 30 ans de pratique, eh bien, il ne faut pas s'accoutumer à quelque chose qui est de l'ordre du répétitif. Parce que quand on répète quelque chose, forcément, on n'avance pas. Il faut s'accoutumer de ce que l'on ne prévoit pas. Il faut s'accoutumer de ce dont on ne peut pas s'accoutumer, justement. Et c'est en ce sens que ce confinement qui nous met de facto dans une position tout à fait inédite, eh bien, je vois, c'est là que je parle de la lumière. Je vois comment les hommes à travers le monde utilisent cette contrainte forte pour imaginer des processus, imaginer des postures d'évitement, de contournement, pour trouver des solutions formidables à ce qui nous arrive. Et je trouve ça, mais tout à fait admirable, en fait. Et bien, on le voit de toute façon tous les soirs à la télé. Je crois même que, en dehors de l'aspect politique, de la gestion politique des choses, je crois que l'homme, l'humanité, est en train de gérer les choses à sa façon. Et moi, ce que je vois, c'est que dans cette humanité, il y a de la créativité sans fin.
Oui, puis ce que j'entends, c'est. Alors, ju juste avant, je relève un commentaire de Yolande qui dit voir les choses en grand sans se donner de limites et réaliser de grandes choses. Bravo, Alain. Merci, Yolande,
Merci.
pour ton commentaire. Et elle poursuit en disant les routines ont complètement été bousculées. C'est vrai. Mais du coup, Alain, pourquoi on a besoin de contraintes? Parce que je t'entends parler de créativité illimitée, sans fin. Mais il me semble aussi que c'est dans un moment presque de chaos que la créativité émerge.
Oui, parce que en fait, l'image du chaos peut être une image qu'on peut utiliser parce que le chaos, c'est quand tous les facteurs, il y a une sorte d'instabilité générale, en fait. Et en fait, dans cette instabilité, si une petite chose peut avoir de très grandes conséquences, on va dire. Il suffit de, par exemple, de penser à la météorologie. Les météorologues, malgré les modèles mathématiques, les modèles scientifiques qu'ils ont pour calculer à J plus 1, plus 2, plus 3 le temps, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'il suffit de déplacer qu'une température s'élève de quelques degrés ou s'abaisse de quelques degrés, que le vent, enfin je veux dire, des toutes petites interférences peuvent, à jour 1, plus 2, plus 3, plus 4, engendrer de grandes conséquences. Et je crois que là, on a vraiment l'image de quelque chose de microscopique, qui est un virus, qui est invisible, qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, et pourtant, là, qui engendre de très grands changements dans nos vies. Donc, je pense que tu as utilisé un mot tout à l'heure, qui est le mot résilience. C'est vraiment le moment. Alors, je ne sais pas si ça va tout changer, mais je pense quand même qu'on ne va pas s'en débarrasser tout de suite, que c'est quelque chose qui sera là avec nous pour un moment, et donc qui va nous obliger à revoir. Mon grand rêve, ce serait que le système en entier soit redéfini, mais bon, je ne pense pas qu'on va y arriver. Mais revoir, en tout cas, notre rapport aux hommes, notre rapport au travail, notre rapport au temps, et c'est une réflexion salutaire.
J'entends. Il y a Peggy en commentaire qui nous dit « S'adapter à la contrainte demande de la créativité, cela appelle les mécanismes de survie aussi. » Et ça me fait penser à cette image.
Mais ce que Peggy dit est absolument vrai. Il y a quelque chose de l'ordre de la survie. C'est-à-dire que là, on se rend compte que nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des machines. Et ce qui nous différencie de l'animal, c'est qu'on a cette capacité à s'adapter. C'est ça qui nous élève. C'est que on redécouvre finalement, je ne sais pas, les gens qui imaginent des stratagèmes pour faire du sport, qui imaginent des stratagèmes pour toutes sortes de choses. En fait, on retrouve cette humanité dans notre capacité à inventer. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment formidable. Et c'est souvent, quand je veux dire, les choses sont inéluctables, quand on n'a pas le choix, finalement, eh bien, on est obligé d'inventer.
On retrouve notre humanité dans notre capacité à inventer. J'aime beaucoup cette phrase-là. Il y a Yolande en commentaire qui nous dit « Alain, en tant qu'artiste, quelle est ta vision du monde après le confinement ?»
Après le confinement. Alors, c'est une vision qui sera très contrastée parce qu'on sait tous que la culture et l'art sont les dernières choses auxquelles on pense quand on est en situation précaire. C'est-à-dire que je sais bien que c'est pas si tôt que je veux revendre des peintures, des dessins. Bon, mais c'est pas grave. Ceci dit, et on en parlait tout à l'heure, je pense que ceux qui ont de la chance d'avoir un peu de terre, d'avoir un peu de terrain, il faut se préparer à ça, il faut retourner à la terre. Il faut retourner à la terre, il faut se dire que il n'y a pas d'autre chose plus satisfaisante, plus réconfortante que de pouvoir se nourrir de ce qu'on a planté. C'est peut-être bête à dire, hein, parce qu'on a l'habitude d'aller... Bon. Mais ça aussi, c'est nous replacer... dans notre rapport à la nature. En tout cas, moi, c'est le souhait que j'ai fait depuis un moment et je m'y prépare aussi. Je suis artiste, c'est-à-dire que je suis dans... On pense, on rêve souvent, mais le rapport à la terre est quand même très fort. Moi, je viens de la campagne, je viens de lieux où je vois même mes parents, ils sont presque tout suffisants. Enfin, ils plantent, ils mangent, ils plantent ce qu'ils mangent, enfin, ils mangent ce qu'ils plantent, quoi. Et c'est vrai que mon rêve, ce serait ça, de pouvoir continuer à créer, mais de retourner à la terre. Je pense que dans les décennies à venir, ce sera un paradigme, enfin, ce sera un élément qui va changer beaucoup de choses.
Et oui, puis même dans le live d'hier, on l'a vu avec le docteur Frédéric Costa en santé publique, qui parlait de l'importance de l'environnement et de comprendre à quel point, en fait, nous sommes l'environnement, il n'y a pas l'environnement et nous sommes, c'est un écosystème dont nous faisons partie. D'ailleurs, tu parles souvent de la terre, Alain, et je sais que tu es fan de cacao.
Ah oui.
Et est-ce que tu as des, il me semble que tu as des projets autour de ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut en parler ou c'est top secret pour
Oui,
le moment?
bon, c'est un peu secret parce que bon, c'est, mais non, mais c'est vrai qu'on a un petit peu de terre, donc on s'est dit non, il faut faire fructifier la terre. Quand on a un peu de terre, il faut pas la laisser là, il faut la faire, comme on dit souvent les anciens, la terre doit, comment dire ça, il faut la faire fructifier. En fait. Et on est parti
Pour la
du constat,
cultiver.
oui, voilà, il faut la cultiver, et en fait. Avant, les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, étaient des terres bonificatrices en termes de cacao et de café. Le
Le
café,
café aussi, oui.
le café Guadeloupe est un café bonificateur parce que c'est un très très bon café. Et par le passé, les gens régulièrement avaient un peu de cacao qu'ils donnaient, qu'ils vendaient à ceux qui veulent du chocolat. Ça faisait partie des choses qu'on avait dans son jardin. En Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, il y a des initiatives qui naissent en tout cas pour refaire redécoller la filière cacao. En Martinique, il y a une association qui s'appelle Valcaco qui pousse tous ceux qui ont peu de terre eh bien, à planter du cacao parce qu'on en a besoin. On en a besoin, c'est quelque chose qui fait du bien, qu'on consomme énormément. Et la situation du cacao en Afrique fait que. Au niveau de la capacité de production et de la qualité, les choses ne vont pas bien. Donc, je pense que il faut comprendre qu'on va favoriser, c'est un peu le projet, favoriser des petites plantations avec une qualité, une très grande qualité. Donc, c'est ce sur quoi, voilà, c'est ce sur quoi on essaie de travailler, replanter le cacao et surtout le replanter du cacao qu'il y avait déjà sur le terrain, c'est-à-dire les cacaoyers qu'on a replantés. Sont des cacaoyers, sont des types enfin, qui étaient déjà sur la terre. Donc on n'a pas importé du cacao, c'est du cacao qui était déjà là. Donc on replante.
Et je trouve ça
Voilà.
super inspirant, Alain. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi c'est important d'utiliser le cacao qui est déjà présent?
Oui, parce que le cacao a cette particularité de se nourrir des arômes des arbustes, des arbres fruitiers qu'il y a autour. C'est-à-dire que l'arôme, ce qui fait la qualité du cacao, c'est ce qu'il y a autour de lui. Donc, et puis, au niveau des essences, en fait, bon, il y a différentes essences qui sont plus ou moins fines, et on en a répertorié sur le terrain, donc on les a gardées, en fait. C'est pour avoir une sorte d'harmonie des essences dans le dans la Non, mais c'est surtout et puis c'est surtout que c'est un produit qui a une forte valeur ajoutée et que il y a vraiment quelque chose à faire là pour peu qu'on ait un peu de terre et je crois que les Antilles sont vraiment des lieux où on peut faire du très très bon cacao.
Effectivement, je peux pas m'empêcher de penser à une discussion qu'on a eue avec Dominique Vénéré cette semaine ou la semaine dernière, et qui expliquait justement sur si on pouvait faire un état des lieux des talents mais des ressources aussi qu'on a sur nos territoires et qu'on puisse construire à partir de ça. Et de ce que j'entends en t'écoutant parler, c'est vrai que cette période de temps, cette période de confinement qui nous donne le temps de penser, puis de revenir à soi, de lire, de réfléchir, et de retrouver notre humanité. Et du coup, ce lien qu'on a avec la Terre, je trouve ça fabuleux effectivement, de se rendre compte, mais que en Guadeloupe, en Martinique, dans la Caraïbe en général, mais spécifiquement sur cette île, café, cacao, il y a de très grandes opportunités sur ces filières-là, puis pour faire valoir aussi tout ce qui est production locale.
Alors voilà. Non, mais ce que tu dis est très important. Je disais en préambule que c'est vrai que je n'ai jamais autant mangé d'igname, de pollo, de patates douces. Parce que, eh bien, j'ai un petit primeur qui est pas loin, mais on va voir la dame, on achète du local. Et je crois que là aussi, quand on se promène, on voit les arbres à pain qui commencent, les fruits à pain commencent à grossir. On est un pays où on a vraiment de quoi pouvoir subsister au niveau alimentaire. Donc, il faut encourager la production locale, vraiment, parce que c'est sain déjà. Et puis, c'est une façon aussi de redécouvrir, là aussi, de redécouvrir la personne dont on ne connaissait pas l'existence, mais qui fait un travail. Ce sont des gens qui se lèvent tôt, qui vont cultiver. C'est ça qu'il faut aussi aider.
100%. Il y a un commentaire de Marie-Audrey que je veux partager, qui est totalement d'accord avec toi et qui dit: quel plaisir de t'entendre dire cela. En tant qu'artiste, je crée très souvent face à la mer ou en pleine nature. Pour l'après-confinement, je pense que la conscientisation de notre rapport à la nature et les changements que cela impose de nous et de nos dirigeants est essentiel.
Ah ben ça me fait plaisir, c'est ma petite cousine.
Super. Ici, on a Claire sur Facebook qui nous met un commentaire. Cacao, café vanille, enchevêtrement d'essence et de saveur mêlé sur les habitations cacaoyères et caféières. Vanibel, la Grivière, en Guadeloupe.
La Grivelière, absolument.
La Grivelière, pardon, oui.
Ah oui, le café de la Grivelière est extraordinaire. Non, tu vois, moi je pense que c'est ça. Il y a un autre aspect. Bon, après, je ne sais pas, je suis pas dans le commerce, mais quand je vois le soleil, il fait vachement beau, c'est juste. Quand je vois la tonne de soleil, je dis qu'il se gâche, mais là aussi, je pense que ce moment-là, les gens ne vont plus tellement le coup de naissance et subir bas. Je pense qu'on a vraiment la possibilité d'être même autosuffisant énergétiquement. Il faut repenser, je pense que ce moment où on peut repenser l'après-pétrole, repenser l'après-énergie fossile, repenser. Et je pense que les Antilles, vraiment, on a cette possibilité d'être des territoires pilotes pour cette autosuffisance énergétique, parce que elle est là, elle est autour de nous. Et c'est simplement rediriger les investissements sur d'autres formes de production d'énergie. Et je pense que ça va marcher. Bon, après, c'est peut-être.
Je rêve peut-être, mais tout commence ici. Il faut. En tant qu'artiste, tu le vis régulièrement. Tout commence dans la tête, par une vision. Je profite que tu parles d'énergie parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé, que j'ai découvert il y a plusieurs années. Et je vais vous montrer ici. Alors, pardonnez-moi pour l'anglais, mais je vais vous aider pour ceux qui sont que francophones. Ici, la première ligne ici nous montre l'énergie en mégawattheure utilisée aujourd'hui, okay, dans le monde entier. Et regardez la quatrième ligne qui nous montre la quantité d'énergie solaire qui a frappé la Terre aujourd'hui, donc sur la même période. Autrement dit, avec l'énergie solaire, nous pourrions alimenter plus de 1000 planètes comme la nôtre avec la consommation d'énergie actuelle. Maintenant, si pour faire la petite parenthèse un peu geek, les meilleurs panneaux solaires aujourd'hui, c'est à peu près 24% d'efficacité. Donc, on pourrait convertir que 25% de cette énergie-là. Donc, malheureusement, on pourrait alimenter que 250 planètes comme la nôtre et pas 1000. Mais quelque part, oui, je te rejoins au moins dans l'idée et dans l'approche. Il y a cette prise de conscience à avoir que, oui, le soleil brille jour et nuit. Et il y a effectivement quelque chose à faire à ce niveau-là. Les Antilles autosuffisantes en énergie, ouais. c'est un rêve, c'est une vision que j'ai personnellement et que je partage avec Jean-Jacques French et Humans Link. Et je serais très heureux de voir des projets et même de prendre part dans des projets qui favorisent ça, l'autonomie énergétique de nos territoires en Guadeloupe, Martinique. Absolument. Du coup, Alain, comment on fait pour inspirer plus de gens d'aller dans ce sens, de retourner vers la Terre pour être, d'un point de vue d'élever les consciences, mais éventuellement aussi pour revenir à une autonomie peut-être sur l'alimentation? et potentiellement énergétique aussi, comme on vient de parler. Comment on peut faire pour inspirer le monde dans ce sens?
Moi, je pense que le meilleur élan qu'on peut donner à des initiatives, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire, c'est vrai que les discours sont contents, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que, comme tu dis, de faire des chaînes, de garder ce lien avec tous ceux qui sont dans cette dynamique de vouloir faire les choses. Et c'est en faisant les choses que les choses se font, ce n'est pas en parlant. Et je pense que chacun qui fait un petit peu, mais qui est allié à chaque une autre personne qui va faire aussi un petit peu, eh bien, ça va donner de la visibilité et avec une forte visibilité, eh bien, on entraîne les autres parce que, comment dire, chez nous, c'est Gundiri, c'est Gundiri qui a fait Sakdiri.
Qui a fait Sakdiri, ouais.
Voilà. Donc, il faut cela, surtout se s'entraider. Et je crois que ça, c'est un nouveau pari aussi. Comment, parce que je pense que dans le monde qui est à venir, l'entraide, le partage seront des valeurs très importantes. Alors, comment concilier une économie avec ces valeurs-là, je ne sais pas. Mais je pense quand même que, je disais tout à l'heure qu'il faut vraiment baser une économie sur une échange, sur une vente d'excellence. Que l'on ne vende pas des formules mathématiques qu'on va échanger dans les spéculations, mais quand l'on vend réellement du savoir-faire et de la pensée, qu'on vend des choses réelles. Et je pense aussi que ce moment redéfinit la valeur vraiment de ce que c'est que faire des affaires, que ce que c'est que d'avoir un rapport économique avec des gens, avec des États, parce qu'il faut que ça soit basé sur des choses, sur des valeurs réelles, et non pas des valeurs fictives.
Ça me fait penser. Effectivement, avec Human Sync aussi, on est convaincu, l'entraide et la solidarité sont des valeurs extrêmement importantes pour aujourd'hui, mais pour construire ce monde de demain. Et donc, j'entends Alain. Comment on fait pour influencer et pour motiver les gens à embarquer dans ce mouvement? Tu l'as dit, c'est en montrant l'exemple, en faisant comme le colibri, en faisant sa part. Même si c'est une petite part, mais le fait de le faire, c'est par là que ça commence. Donc, en montrant l'exemple. Et je note aussi... Pardon?
Il dit que ce sera difficile, c'est pas évident.
Mais alors, est-ce que justement le rôle de l'art et de la culture n'ont pas une influence, n'ont pas une place pour influencer nos sociétés, le regard qu'on pose sur le monde?
Bien évidemment, je veux dire que pour moi, l'art, c'est ce que Umberto Eco appelle une métaphore épistémologique, c'est-à-dire que dans l'art, dans les œuvres d'art, il y a comme cristallisé une pensée sur le monde, une façon de voir les choses. Donc là, sans parole, sans rien dire, sans mots, c'est quelque chose, ce sont des logiques qui nous touchent par la sensibilité, mais qui aussi nous font réfléchir. Et je crois que ça me donne encore de la force d'avancer, de continuer à peindre, de continuer à montrer bien ma vision du monde, la façon de concevoir, de comprendre le monde de façon sensible, mais de façon intelligible aussi, parce que dans la peinture, dans l'art, dans la musique, il y a une façon de véhiculer un savoir, une information qui n'est pas palpable, mais qui touche directement les gens. Et je crois que c'est le moyen même le plus direct de les toucher.
L'art. Exactement. L'art. Pourquoi, alors, toucher les gens, est-ce qu'à travers tes œuvres, est-ce qu'il y a un message quelque part ou un ensemble de nuances qui pour toi sont importants de faire passer? Est-ce qu'il y a comment bien apprécier une œuvre d'Alain Joséphine quelque part?
Non, tu sais, c'est tout discours est un discours qui s'ajoute à l'œuvre. Donc l'œuvre aussi est faite de tous les discours qui sont produits autour. Et moi, je m'occupe pas vraiment de la réception de mes œuvres. Ce qui est important pour moi, et c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est d'être complètement cohérent avec ce que je dis, d'être cohérent entre ce que je dis et ce que je fais. Et je crois que dans tous les domaines d'activité, c'est la cohérence qui force, je veux dire, la compréhension. Tout ce qui, comment dire, si les choses sont pensées de façon cohérente, eh bien, elles vont donner des actions cohérentes. Et les actions cohérentes, quand elles sont logiques, quand elles sont bien menées, quand elles sont étayées, eh bien, elles touchent les gens parce qu'elles sont indubitables. Et donc, il faut, je pense, dans tout travail, et à mon avis, dans le travail d'artiste en particulier, travailler la cohérence de l'acte, du faire et de la pensée. Et c'est pourquoi j'essaie de me décrire, de décrire sur ce que je fais, parce que le fait d'écrire, de théoriser ce que je fais, ça m'aide à donner de la cohérence à tout ce que je fais. Et donner de la cohérence à ce qu'on produit, pour moi, c'est la plus grande des exemplarités. C'est ce sur quoi c'est la ligne de conduite. Quand tout est clair, il n'y a pas de problème.
Être cohérent entre nos valeurs, ce qu'on pense, ce qu'on dit, voilà. Mais aussi ce qu'on fait, n'est-ce pas ?
C'est ça, exactement.
Et c'est une des clés quelque part pour tout un chacun et tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. C'est quelque part le premier pas dans la bonne direction et selon toi, Alain, pas si compliqué que ça. C'est simplement la discipline d'être cohérent ou l'amour de soi pour être authentique envers ses valeurs, ses idées, ses mots et ses actions, si j'ai bien compris.
Oui, oui. Alors, c'est une belle entreprise hein, parce qu'il faut avoir le travail sur soi. D'accord et on revient, on boucle la boucle parce que travailler sur soi, c'est se comprendre. Et comment se comprendre autre part que dans le fait de créer. C'est en créant que l'on se comprend soi-même. Donc, je veux dire que voilà, tout ça, c'est lié. Il faut les situations de contrainte nous poussent à la résilience, donc à des solutions alternatives pour créer, pour arriver quand même à nos fins. Mais en créant, eh bien, nous créons de l'information sur nous-mêmes. Et en créant de l'information sur nous-mêmes, nous pouvons trouver ce chemin de cette voie, de l'alignement. Et je crois qu'après, ben dans nos actions, lorsqu'on le fait avec cette cohérence avec nous-mêmes, on est plus crédible. Et c'est aussi un gage de force et puis de force de, comment dire, pour convaincre nos collaborateurs et ceux avec qui on travaille.
Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent parce que quelque part... Cette période de confinement, est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité pour tout un chacun, mais pour notre...
Pour notre quoi tu dis ?
Je dis, est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui nous écoutent ? Parce que j'entends dans ce que tu dis que ce moment est une opportunité pour les individus, mais aussi peut-être pour nos territoires.
Ben, je serais bien mal passé pour donner des conseils parce que j'ai la chance d'avoir un boulot qui est stable, donc je n'ai pas à me casser la tête. Mais alors que pour d'autres, c'est vraiment leur outil de subsistance qui est en jeu. Et je sais bien que les artistes qui ne vivent que de cela, les gens du théâtre, les gens de la musique, les gens qui sont dans la culture, les gens qui sont dans le spectacle, et les choses sont extrêmement difficiles parce que ils ne vivent que de ça. Néanmoins, je ne peux pas m'empêcher de penser quand même que pour nos îles en particulier, il y a là le moment, le temps de penser que un autre chemin est possible. Voilà. Et que surtout, et c'est comme en art, il ne faut pas attendre que les choses arrivent, il faut faire les choses, c'est-à-dire il ne faut pas attendre Oui, le politicien, c'est normal, il est là pour gérer, on va dire, au sens noble du terme, la politique, il est là pour gérer le bien-être de la cité. Mais on voit maintenant comment les initiatives citoyennes, les initiatives personnelles contribuent à cet équilibre de la société. Et je crois que si on a cette chaîne de ceux qui veulent avancer en créant des formes alternatives, si cette chaîne est bien, elle est forte et elle s'additionne de maillons supplémentaires, on peut faire montre d'inventivité pour, pourquoi pas, repenser la façon dont on peut consommer local, la façon dont on peut produire local, la façon dont on peut imaginer tirer ressources de nos formidables réserves d'énergie renouvelable. Non, c'est le moment. C'est le moment. Mais c'est sûr que, comme tout changement, on parle encore du chaos, il y a l'inertie. L'inertie de la masse est très grande. Pour faire changer, ça va prendre du temps. Mais il ne faut pas s'occuper de ça. Il faut avancer.
Alors Alain, tu nous disais au début, c'est une opportunité de prendre le temps. Et il y a aussi, tout de suite, tu nous expliques que bon, même en tant qu'artiste, il faut agir et il faut passer à l'action. Comment est-ce que tu fais la part des choses entre le moment où il faut prendre le temps et le moment où il faut agir? Parce que les deux sont sains, j'imagine qu'il y a un équilibre. Comment ça se passe pour toi?
Alors ben justement, c'est un des choses que sur lesquelles je réfléchis en ce moment, parce que j'écris, je fais tout un travail de recherche sur ce qui se passe dans les processus de création. Et c'est vrai que l'action, l'action est souvent induite après une longue période de réflexion, on va dire. C'est-à-dire que, en tout cas, hein, quand je peins, par exemple, je le dis dans ce que je fais, dans ce que j'écris, eh bien, il y a une sorte de dissociation, c'est-à-dire une sorte de corps pensant qui se dissocie du corps réel et qui s'imagine aller faire le geste, en fait. Et en fait, ce corps pensant est comme une sorte de dédoublement de mon corps que j'imagine aller prendre le pinceau, aller mettre la nouvelle couche de peinture. Et en fait, c'est quand je vois clairement ce que je peux faire et que cette nouvelle couche que je vais ajouter sera cohérente avec ce qu'il y a avant, et bien là, mon corps physique, mon vrai corps se lève et passe à l'action. Donc, l'action, c'est vrai, l'action, ce n'est pas l'action pour l'action. Toujours, il faut garder cette idée de cohérence pour que l'énergie qu'on va mettre dans une action soit la bonne au bon moment.
J'entends, effectivement, il y a un mot-clé ici, c'est cohérence. Donc, tu visualises, tu prends le temps de réfléchir et ensuite de visualiser, même de te projeter en train de faire l'action et d'observer cette idée. C'est de l'imagination, quelque part. C'est pas de l'action.
C'est ça.
L'imagination pour pouvoir ensuite simplement dire est-ce que c'est cohérent avec qui je suis et ce que je veux, et si la réponse est oui, alors tu passes à l'action. Donc quelque part on est tous équipés pour pouvoir faire ce processus là si je comprends bien. Et ce que tu dis aussi, c'est pas faire pour faire, et en même temps c'est pas rester dans un état pensant et trop longtemps.
Oui, parce qu'il y a une autre dynamique qui est très intéressante aussi. Alors, il ne faut pas faire pour faire, mais en même temps, dans l'action, il y a aussi des modifications. C'est-à-dire que dans le moment de l'action, la pensée sur l'action se modifie. C'est une sorte de boucle rétroactive, en fait. C'est-à-dire que ma pensée m'invite à l'action, mais pendant l'action, ma pensée se modifie parce qu'il y a des choses qui se passent dans la peinture que je n'avais pas prévues. C'est comme dans la vie. Hein. Et dans l'action, eh bien, je suis obligé de refaire. En fait, les deux sont en action, la pensée et le geste, parce que l'un agit sur l'autre. Et en fait, dans le moment de l'action, eh bien, je réévalue la validité de ce que j'avais pensé. Et donc, il faut être, c'est ça, c'est l'éveil. Il faut faire, mais en même temps faire en étant ouvert au champ de possibles qui s'ouvre dans l'action. En fait. Donc, c'est une pensée active, mais c'est une action qui se pense aussi. En fait. C'est ce sur quoi je travaille en tout cas en ce moment. C'est la façon dont les deux interagissent l'une avec l'autre. En fait.
Donc, ce que j'entends, Alain, c'est que tu t'es présenté comme un homme éveillé, et donc c'est quelque chose sur lequel c'est une démarche dans laquelle tu t'inscris déjà depuis un moment, et cette attention que tu portes à l'esprit et au corps. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous qui sommes beaucoup dans la tête. On est beaucoup dans nos têtes. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement réhabiter un peu plus le corps? Et est-ce que le processus de création ne va pas aussi passer par la réception de nos cinq sens?
Absolument. Absolument. C'est pourquoi en filigrane de tout ce que je fais, la présence du corps est absolument importante. Et je crois en plus que dans nos îles, je ramène tout ça toujours à l'île, parce que c'est le cadre dans lequel nous vivons. Et je crois que nous avons vraiment cette chance de pouvoir être dans la vie, dans notre façon de vivre, pas déconnecté de notre corps. C'est-à-dire que bon, on va à la plage, on va à la rivière, on se promène dans la nature, on mange, on boit, on est habillé. La nature n'est pas une agression pour le corps. Donc ça veut dire qu'on peut se permettre de vivre avec notre corps. Et ça, ce ne sont pas des détails, ce sont des informations que le corps nous donne. Mais quand on est malade, on a mal. Quand on est, je veux dire, le corps a son langage qui est très important. Et donc oui, repenser le local, c'est aussi se nourrir mieux. Se nourrir mieux, c'est se nourrir avec des aliments qui viennent de circuits extrêmement courts. On est dans une île, les circuits sont très courts. Donc tout ça, c'est cohérent. Il faut remettre tout ça en ligne. Et c'est pour ça que je dis que souvent, c'est ce que j'avais dit lors de l'intervention que j'avais fait pour la semaine de la week. L'art, c'est comme la vie. Enfin, ce que moi je découvre dans la peinture. Eh bien, c'est pour ça que je me permets de pouvoir parler maintenant, c'est que ce que je découvre en peinture, vraiment, je l'applique dans la vie. Parce que ce que je découvre quand je peins, quand je crée, eh bien, ce sont en anglais, on peut dire behavior. C'est ma façon, c'est quelque chose qu'on peut transposer dans la vie réelle.
Alors, il y a un commentaire de Yolande, je pense, qui s'adresse particulièrement à ceux qui sont beaucoup dans la tête et qui dit action, conso-action, confine-action, pensée-action, co-action, clin d'œil. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup sourire. Merci Yolande. Oui, effectivement, Alain, c'est aussi. Donc, tout passe par le corps au départ, parce que toute notre réalité, quelque part, on la reçoit à travers nos cinq sens. Puis ensuite, dans un deuxième temps, l'esprit et la tête va donner du sens, va interpréter. Et là, on peut effectivement commencer un processus de réflexion pour ensuite, en cohérence, retourner dans le corps et cette fois-ci passer dans l'action. Et ce que j'entends et que je trouve qu'est une clé que je voudrais partager avec tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, c'est tu as mentionné quelque part cette faculté à réaliser certaines choses et à rapidement avoir cette boucle de rétroaction et de mettre à jour quelque part ta manière dont tu vois les choses, mais aussi ton comportement. Et donc, il y a cette boucle de rétroaction pour continuellement, perpétuellement être en cohérence avec qui nous sommes, mais avec cette, à la fois on réfléchit, donc notre vision du monde évolue. Mais aussi, quand on est dans une action cohérente, le fait de créer, le fait d'être dans l'action, fait évoluer aussi notre manière de percevoir. Et donc, Donc, il y a ça qui est important et je trouve que c'est dans notre vie personnelle, mais aussi et aussi en affaires, je pense que c'est extrêmement important d'être capable de mettre à jour notre système d'exploitation quelque part, notre iOS, extrêmement rapidement et de ne pas attendre des jours, des semaines, des années ou toute une vie avant d'agir sur les prises de conscience qu'on a. Et donc, je te remercie pour ça parce que on est capable d'avoir des prises de conscience 10 par jour, s'il faut, si on veut. Et ça peut arriver. Et puis, étant donné qu'on a de plus en plus de temps, et du coup, du temps pour réfléchir, puis du temps aussi pour agir sur des choses qui nous tiennent à cœur. Donc, c'est un moment propice, pardon, pour les prises de conscience. Donc, si on écoute Alain, on reste en cohérence. Et donc, dès qu'il y a une nouvelle prise de conscience, tout de suite, on cherche à aller très vite pour rester en cohérence aussi dans nos actions. Et donc, quelque part, agir, montrer l'exemple, pas à pas, step by step, comme on dit en espagnol. Alain,
Ça.
est-ce qu'il y a un bouquin que tu lis en ce moment, que tu voudrais partager avec nous?
Bon, j'en lis plusieurs, mais bon.
On parlait de chaos tout à l'heure. Est-ce
Oui,
que...
Hasard et Chaos, oui, Non, t'as dit que bon, je m'intéresse beaucoup au phénomène. Où le hasard vient, le hasard entre en compte. Et donc, ça m'intéresse de savoir. Voilà, c'est ça, très bien. Ben, tu vois, c'est à French Edition, donc c'est très bien. Ça m'intéressait de savoir qu'est-ce que le hasard, mais de façon dans sa compréhension scientifique, en fait.
Intéressant.
Et en fait, après, bon, ça permet d'analyser plusieurs théories, dont la théorie du chaos, mais aussi, en fait, David Ruel, il poursuit le travail de monsieur qui s'appelle Poincaré. Et Poincaré, c'est lui qui a parlé justement de ce qu'on appelle des conditions initiales, c'est-à-dire comment dans un moment donné, souvent un moment d'instabilité, comment, eh bien souvent, souvent dans la théorie, par exemple, de la dynamique des gaz, la façon dont des gaz se transforment, se mélangent, en fait. Eh bien, on y analyse le fait que si on déplace, mais de façon très infime, hein, la trajectoire de deux atomes qui vont se percuter, eh bien, a posteriori, ça va engendrer de grands dépassements, de grands changements. C'est-à-dire que le hasard, en fait, c'est notre incompréhension, finalement, à pouvoir comprendre l'extrême complexité de toutes les parties qui vont entrer en jeu ou bien qui vont se télescoper. C'est parce qu'on ne peut pas comprendre, je veux dire, à l'atome près, à la molécule près, ce qui va se passer, que on parle de quelque chose qui advient dont on ne peut pas totalement expliquer l'émission, et donc on parle du hasard. Donc pour moi, c'est. Oui, vas-y.
Quelque part, en fait, il y a une cohérence dans le chaos, c'est juste qu'on ne la comprend pas. Et quelque part, tout ce qui est magique jusqu'à ce qu'on comprenne son fonctionnement.
Voilà. Pardon, je prends un exemple très simple. Quand on voit les choses une vision macro, une vision micro. Par exemple, quand deux corps ont deux températures différentes, eh bien, naturellement, quand ils sont en présence, il y a une sorte d'équilibre qui va arriver. C'est-à-dire que, au bout du compte, les deux auront à peu près la même température. Scientifiquement, c'est ce qui se passe. Mais en fait, quand on regarde de façon encore plus précise, les deux n'ont pas exactement la même température. C'est-à-dire que globalement, on peut dire qu'ils ont la même température. Mais si on avait un thermomètre extrêmement précis, on verrait quand même que, y a une infime différence. Qu'est-ce qui veut dire? Ça veut dire que même dans notre façon de mesurer les choses de façon précise, il y a toujours une marge d'erreur. Et cette petite marge d'erreur qui n'est pas calculée, peut engendrer de grandes différences et donc des erreurs qu'on ne comprend pas dans les calculs ou bien dans l'approche des choses. Mm-hmm. Et donc, même dans notre façon de voir les choses extrêmement précises, il y a toujours cette espèce de d'infime espace qu'on ne peut pas maîtriser, qui fait qu'on ne peut pas tout prévoir. En fait. Mais ça, je trouve ça intéressant parce que moi qui travaille avec cette dimension du hasard, eh bien, il me fallait comprendre aussi ce que ça veut dire hasard dans son acception scientifique. Quoi, en fait.
Donc là, en fait, un artiste avec une approche scientifique ou en tout cas un intérêt pour le fonctionnement du monde, c'est possible?
Ben oui, mais c'est ça le enfin, pour moi c'est important, c'est ça cette volonté de cohérence, parce que dire quelque chose, affirmer quelque chose, il faut pouvoir l'essayer. Il faut pouvoir, si je parle du hasard, il faut pouvoir dire de quel hasard je parle. Si je parle de, je sais pas moi, de j'utilise beaucoup l'eau, les liquides, mais il faut que je m'intéresse à la tension superficielle des liquides. C'est parce que ce que nourrit la création, c'est aussi l'observation scientifique. Ce qui nourrit aussi l'observation scientifique, c'est aussi l'observation sensible. Souvent, il y a beaucoup de scientifiques, de chercheurs, qui partent à partir de leur intuition. Souvent, on a une intuition de, par exemple, les trous noirs. C'est une intuition qui est devenue un calcul mathématique. Et c'est à partir du calcul mathématique que ça a été vérifié ensuite. Donc, tout ça, c'est lié, c'est-à-dire que le chercheur peut avoir une intuition d'une équation ou bien d'un calcul qu'il devra vérifier ou bien qu'il se vérifie des années plus tard. Non, l'artiste doit s'intéresser aussi à l'aspect scientifique des choses, parce que ce sont des logiques qui rentrent dans la logique de création.
Impressionnant. Merci pour ça, Alain. Est-ce que tu as... Ça, c'était un livre, donc on a vu Hasard et Chaos de David Ruel. Est-ce qu'il y a un morceau de musique ou un film que tu voudrais partager avec nous?
L'un des films qui m'a vraiment marqué, mais bon, parce qu'il parle de tout ça, c'est Interstellar. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film parce que... notamment parce que la musique est extrêmement, extrêmement belle. Je peins souvent. Alors, je ne le faisais pas avant, mais cette musique m'inspire beaucoup pour créer.
Oui.
Et puis, parce que dans ce film, donc évidemment, il parle de ces fameux trous noirs. Et puis, il y a une dimension à laquelle moi je crois, c'est la dimension de l'amour. En fait. Et dans ce film, il y a cette. Alors que c'est un film qui parle de notions scientifiques assez pointues. Notamment de la relativité, de tout ce qui se passe au niveau des changements de temps quand on s'approche des trous noirs. Et en fait, il invoque cette dimension de l'amour comme une autre dimension qui peut traverser le temps et l'espace. Ça, je trouve ça très, très intéressant parce que c'est vrai que l'amour, on peut toujours aimer des gens qui nous ont quittés, on peut toujours aimer des gens qui ne sont plus. Donc, l'amour va au-delà du temps, au-delà de l'espace. Et je crois que c'est une force qui fait partie, ça c'est ma
conviction
personnelle, qui fait partie de ces forces qui régissent l'univers. En fait. C'est une dimension enfin, qu'il ne faut pas négliger.
Ouais, donc même si cette phrase est un peu cliché, l'amour est la réponse à tout.
non mais parce que et je reviens encore au fait qu'on soit dans des îles. Quand on regarde la façon dont la nature croît autour de nous, il y a cette force qu'on ne peut pas restreindre, cette force de vie qui, lorsqu'on regarde une plante, elle va toujours imaginer toutes sortes de possibilités pour continuer à croître vers la lumière. Et quand on regarde la nature, le principe n'est même pas en tout. Et je crois qu'autour de ça, il y a beaucoup d'amour, cette espèce de force, voilà, c'est exactement ça, cette espèce de force à toujours produire la vie, à toujours produire les raisons valables d'avancer dans la vie, particulier. C'est là qu'il faut prendre l'exemple. Cette espèce de d'ultime résilience de la nature qui, quoi qu'il arrive, va toujours garder son cap pour Dieu les racines, s'enraciner pour pouvoir monter vers la lumière.
Merci beaucoup, Alain. Merci pour ces mots extrêmement inspirants, pour ton travail et ton intelligence, ton éveil. La pause café est déjà finie pour aujourd'hui. Le temps passe super vite ce matin. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à réagir en commentaire pour nous laisser savoir ce que vous avez pensé de la pause café d'aujourd'hui. Partagez ce live avec vos amis, vos connaissances si vous pensez que ça peut aussi les inspirer. Rappelez-vous, on cherche à favoriser le lien, l'entraide et la solidarité. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne parce qu'on publie des lives tous les jours de la semaine à 11h avec Pause Café. On revient avec différents intervenants tous les jours. Donc, on a vu avec Alain, le plus important, c'est si on veut créer un monde meilleur autour de soi, c'est de commencer par nous-mêmes, d'être en cohérence, utiliser ses cinq sens dans son corps pour observer, comprendre la nature, son environnement, de se reconnecter à la terre et ensuite de réfléchir et d'accepter de prendre le temps d'être dans sa tête, de réfléchir, de poser des questions, mais de pas rester bloqué là. Et dès qu'on le sent, de passer à l'action et de faire sa part étape par étape. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. C'est vendredi, donc je vous souhaite aussi un super week-end. On se retrouve lundi à 11h pour une nouvelle pause café. Soyez humains, soyez extraordinaires. Merci beaucoup.